Alors la 23e édition du festival Lettres d'automne va se dérouler du 18 novembre au 1er décembre et ce festival est consacré à Albert Camus, notre contemporain. Alors dans ce cadre-là, on a le plaisir d'avoir Maurice Petit, directeur artistique de Confluence et de ce festival, qui va venir nous présenter en 4 épisodes la vie d'Albert Camus. Bonjour Maurice Petit.
Bonjour.
Alors, premier épisode, de sa naissance à 1937, Albert Camus naît donc en 1913.
Il naît en 1913, il faut le souligner, dans l'Algérie française encore de l'époque, et il naît dans une ferme. La ferme de Saint-Apôtre à Mondovi, près de la frontière tunisienne. Pourquoi dans une ferme? Parce que son père est ouvrier agricole à cette saison-là, il travaille dans les vignes. Il travaille donc dans cette propriété de Saint-Apôtre et c'est là que Camus naît en 1913. Il y passera très peu de temps dans cette ferme, bébé, puisque son père, quelques mois plus tard, partira à la guerre de 14, sera mobilisé à la guerre de 14. Il ira faire cette guerre de 14 sur le territoire français qu'il ne connaît pas, qu'il découvre, le père. Mais il va le découvrir pour y mourir. Il est tué. Il meurt en octobre 1914 à l'hôpital militaire de Saint-Brieuc. Donc, dans la vie de Camus, absence totale de père, un père qu'il ne connaît pas, et dont il aura sur lequel il aura très peu de renseignements, dans la mesure où sa mère, qui était une femme étonnamment silencieuse, presque muette, assez sourde aussi, bref, qui avait beaucoup de handicaps, cette femme qui s'exprimait très peu, y compris par rapport à ses enfants, Camus avait un frère aîné de 2 ans, Camus sera obligé, beaucoup plus tard, d'aller lui-même tâcher de recueillir des renseignements sur ce père qu'il ne connaîtra jamais. Donc la famille, Madame Camus et ses 2 fils, repartent à Alger à ce moment-là, après la mort du père. Elle repart habiter chez sa propre mère, donc chez la grand-mère d'Albert, dans le quartier de Bellecour, qui est le quartier européen, le quartier des Européens pauvres d'Alger. Camus dira plus tard que, si ce n'était la misère, c'était en tout cas du moins une extrême pauvreté. Mais de cette enfance, il ne gardera pas un souvenir terrifiant, non, parce que, dit-il, certes, il y avait la misère, mais il y avait aussi le soleil. Le soleil, la vie dans le quartier de Bellecour, avec ses copains, etc. Et c'est dans ce quartier que va se passer un épisode essentiel dans son parcours. C'est à l'école communale de Bellecour, où il va faire la rencontre de Louis Germain, l'instituteur de l'école communale. Qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer que Louis Germain repère très vite chez cet élève un appétit d'apprendre assez extraordinaire, un mutisme aussi parfois. Il racontera plus tard, le jeune Camus était un élève assez étrange, parfois très indiscipliné, d'ailleurs je le mettais au premier rang, mais aussi, hors de cette vivacité, il y avait parfois chez lui, tout d'un coup, il semblait se réfugier dans une espèce d'univers qui paraissait pas très gai. Je me demandais à quoi il pensait. Mais bon, Monsieur Louis Germain va convaincre la grand-mère d'Albert et sa mère d'envoyer leur fils au lycée. Qu'est-ce qui était prévu à ce moment-là pour le jeune Camus?
C'était de devenir instituteur, j'imagine.
Non.
Non.
Pour le jeune Camus, ce qui était prévu, c'était de devenir apprenti tonnelier.
Ah oui.
Ils avaient besoin d'argent. Ils n'avaient pas imaginé une seconde que leur fils allait au lycée. À cette époque, surtout dans ce quartier-là, les enfants n'allaient pas au lycée.
Mais l'instituteur, bon, lui, c'était pour qu'il devienne lui-même instituteur en suivant. Hein, quand on allait au lycée à cette époque-là, c'était pour devenir instituteur.
Oui, entre autres. D'ailleurs, c'est ce que, dans un texte plus tard dans le premier homme, c'est ce que dira Camus quand la grand-mère lui demande « Mais pourquoi tirer au lycée? Pourquoi faire plus tard ?» Camus lui répondra « Je ne sais pas, instituteur peut-être. » Bon, disons que pour cette famille-là, envisager qu'un enfant aille faire des études pendant 6 ans, c'est-à-dire avant de me rapporter le moindre sou, c'était pas possible. Louis Germain va se débrouiller pour qu'ils acceptent quand même, moyennant l'aide d'une bourse. Et donc pour Camus, Dieu sait s'il lui en sera reconnaissant plus tard, Louis Germain lui ouvre les portes de la connaissance, de la culture, etc. Et dans les années qui suivront, et jusqu'à la mort de Camus, il demeurera une correspondance, voire une amitié, entre Louis Germain et l'instituteur et Albert Camus, puisque c'est à Louis Germain plus tard qu'Albert Camus dédiera son discours du prix Nobel, 40 ans plus tard.
Et le lycée, alors?
Alors, au lycée, ça se passe pas très bien au début. J'allais dire, il est mal reçu. C'est le gosse des quartiers pauvres, il a l'accent pied noir très prononcé, il est mal habillé, il est pauvre. Il est pauvre au milieu de gosses de riches.
C'est à Alger?
C'est au lycée Bugeaud d'Alger, le grand lycée du centre-ville. Il se sent absolument pas parmi les siens, comme il aimait à le dire. Et alors ça se passe mal au niveau de la cohabitation avec les copains, mais très vite il va trouver des subterfuges pour se faire adopter. Le meilleur des subterfuges, c'était pas d'être brillant élève, parce qu'il est tout de suite brillant élève, c'est pas la meilleure solution pour se faire voir, bien voir des copains. Non, ça va être assez vite le foot, où il va se révéler un bon goal de l'équipe de football, il arrête beaucoup de buts, donc sa cote de popularité remonte. Et puis aussi, petit à petit, l'intérêt qu'il portera au théâtre et à des troupes amateurs de théâtre qu'il y avait au lycée. Donc, au lycée, ça va être toute une, non seulement une aventure très bénéfique pour lui, mais une rencontre aussi avec des professeurs. N'oubliez pas ce que je disais au tout début, il n'a pas eu de père, il n'a pas connu son père. Et tout au long de sa vie, on peut le dire, presque jusqu'au terme de sa vie, il y aura chez lui une quête, probablement inconsciente, de la figure du père. C'est-à-dire, il a toujours besoin d'admirer des gens plus âgés que lui, et dont il pense que, dont il ressent qu'ils auraient pu être le père. Et il y a de ça évidemment chez Louis Germain, il y aura encore et à nouveau de ça chez Jean Grenier, son professeur de philosophie. C'est à cause de Jean Grenier, si l'on peut dire, que sa vocation d'écrivain petit à petit va naître. Au début, les amis qui l'ont fréquenté dans ces époques-là pensaient, je pense à Edmond Charlot, qui était un ami de lycée de Camus, qui plus tard est devenu son premier éditeur. Edmond Charlot, qui est mort il y a quelques années à Pézenas, pas très loin d'ici, m'a dit « On pensait tous que Camus ferait quelque chose de grand. » Là, je le cite mot à mot. Mais pas dans la littérature. On pensait que ce serait dans le théâtre. Parce qu'il était passionné de théâtre, il faisait des mises en scène, il jouait. Il jouait pour la troupe de Radio Alger, entre autres aussi.
Il écrivait des pièces ?
Non, pas encore. Pas encore. Bien que son premier ouvrage, ça sera « Révolte dans les Asturies », une pièce de théâtre qu'il écrira pour sa troupe. Donc je vais un peu vite, mais donc il y a des études de lettres. Il se destinait, lui, en fait, il pensait qu'il allait devenir professeur de français ou de philo. Or, élément important que j'ai omis de dire, à 17 ans, il est atteint de tuberculose. Et tuberculose grave, un premier poumon atteint, plus tard il y aura le second. Donc c'est quelqu'un aussi, et ça c'est très important dans sa construction personnelle, c'est quelqu'un qui va vivre tout au long de sa vie avec l'idée qu'il ne verra pas sûrement sa 95e année. Bon. Et donc ça va beaucoup l'influencer. Il est urgent de vivre, et à partir du moment où il est urgent de vivre, il est urgent de faire des choix. On n'a pas le temps de faire des choix, de se tromper dans ses choix. La vie est courte, donc faut pas se tromper. Et donc à partir de ce moment-là, quand on lui refuse de passer le concours des agrégations parce qu'il est tuberculeux, il va se dire, bon, eh ben je vais pas perdre mon temps à faire un métier qui m'intéressera pas, je vais faire des tout petits boulots qui me rapporteront juste de quoi vivre, mais ma passion, je l'exercerai dans le temps qui me restera.
Donc le théâtre.
Le théâtre. Et donc, il va travailler à la météo, en Algérie, ça ne devait pas être très compliqué. Il va travailler, il a été représentant d'accessoires automobiles. Bon, bref, n'allons pas plus loin, enfin, des petits boulots de ce genre. Si, il travaillait à la préfecture aussi, il était aux cartes grises. Pendant ce temps-là, il fait du théâtre. Mais pendant ce temps-là aussi, il écrit, mais nul ne le sait encore. Et il va écrire, le premier recueil qu'il écrit, qui est L'envers et l'endroit, est un recueil de plusieurs nouvelles très liées à tout ce que je viens de dire, à tout ce que je viens de raconter. C'est-à-dire à ce qu'il appelait les siens, sa famille, son milieu. Sa famille et son milieu par rapport auquel il a toujours gardé une nostalgie très forte, pensant toujours que les véritables hommes et femmes dignes étaient ces gens pauvres, mais qui se tenaient droit et qui avaient des valeurs vertébrées. Voilà, ça a toujours été une grande nostalgie chez lui, par rapport plus tard au milieu des intellectuels. Mes frères, mes faux frères, comme il le dira plus tard, qu'il fréquentera plus tard à Paris.
Alors, L'envers et l'endroit, on est en quelle année?
L'envers et l'endroit, on est en 1937. Il arrive un jour chez Edmond Charlot, je vous en parlais il y a deux minutes, d'Edmond Charlot, qui est un petit libraire, éditeur, ancien copain de lycée. Il arrive avec sous le bras une petite chemise en disant à Edmond Charlot, tiens, j'ai écrit quelques bricoles, tu me diras ce que t'en penses. Et Edmond Charlot, totalement étonné par la qualité de ses textes, lui dit, mais tu vas pas publier ça chez moi, faut publier ça chez quelqu'un de plus important, etc. Et Camus lui répond, non, c'est chez toi que je veux les publier, c'est chez toi que je les publierai. L'envers et l'endroit est publié en 1937, c'est le premier recueil qui aura une diffusion très modeste. Il faut savoir que L'envers et l'endroit, plus tard même, Camus devenu Camus, ne sera réédité en France qu'en 1958. C'est en 1958 seulement, c'est-à-dire après l'attribution du prix Nobel, que Camus dira à Edmond Charlot, tu peux maintenant revendre l'édition de L'envers et l'endroit à Gallimard. Ce qui a permis à Edmond Charlot de couler une fin de vie financièrement plus heureuse. C'était une dette que Camus avait par rapport à Charlot. Pour résumer tout ça, c'est une première partie de vie dans laquelle donc Germain compte beaucoup, mais ce qu'il faut retenir de cette première partie de vie, je viens de le dire, c'est son attachement profond aux siens, et quand je dis les siens, c'est non seulement sa famille et son quartier, mais c'est aussi son pays, parce que son vrai pays, c'était l'Algérie.
Voilà, premier épisode de cette vie d'Albert Camus que l'on va égrener jusqu'au 18 novembre, puisque le 18 novembre, ce sera la date inaugurale du festival Lettres d'automne, 23e édition de ce Lettres d'automne consacré à Albert Camus, notre contemporain. Merci Maurice Petit.
Merci à vous.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Pink, so what? Vous écoutez CFM, c'est l'heure du coup de projecteur Montalbanais consacré à l'inauguration d'une nouvelle maison de quartier, Lénaïque.
Mais à l'Hippodrome cette fois-ci. Donc le 25 octobre dernier a été inaugurée la maison de quartier de l'Hippodrome, 1430 chemin de Saint-Pierre. 5 associations occuperont bientôt le local, parmi lesquelles l'USM Golf. Jean-Michel Martin est le trésorier.
Ben, écoutez, l'USM Golf, c'est 175 membres aujourd'hui. On inclut une quarantaine d'enfants. Donc le principe, c'est extrêmement simple. On est membre du golf et on est de facto, j'allais dire, membre de l'association sportive. On s'occupe de l'organisation des compétitions, de l'école des jeunes, de l'école de golf, des sorties qu'on peut organiser ici et là dans tout Midi-Pyrénées. Avant, on était un peu SDF, c'est-à-dire que c'était chez l'un, chez l'autre, dans un hôtel, dans une pièce qu'on nous prêtait. On n'a pas beaucoup de moyens dans les associations, donc on essaye de faire vraiment à l'économie. Là, le fait d'avoir un endroit précisément dédié à la disposition des assos, c'est extraordinaire pour nous. C'est d'autant plus extraordinaire qu'on est tout à côté du golf. Oui. Et qu'on pourra se retrouver de manière à la fois amicale et un peu professionnelle sur des sujets qui ne concernent évidemment que l'assaut. Hein, donc voilà, et savoir de se retrouver ici de manière régulière sans avoir à chercher un endroit sur des journées sans doute pérennes. On va essayer de s'organiser avec les autres associations pour se partager des soirées. C'est très bien.
Les cinq premières associations, Art en Liberté, Association Quartier 13, USM Équitation, USM Golf et le Poney Club, seront rejoints par d'autres suivant les disponibilités des locaux.
Merci Lénaïque, coup de projecteur Montalbanais, c'est le matin dès 6h40. Il nous reste une petite minute pour atteindre les 17h30, une petite promo, hein. Allez, Radar l'Américain, non?
Salut, c'est Reda. Je viens aux States pour présenter le café tous les matins. Vous me retrouvez sur le Moutouban, sur le Codes, sur le Verfrush et sur le Stoulmoussac. Ça fait un plaisir. Oh yeah, fucker.
6h30, 9h, ne laissez pas la bonne humeur de côté. Prenez votre dose de caféine tous les matins. Caféine.
Oh Reda, tu fais chier, je suis en train de dormir. Qu'est-ce que tu fous là?